On va commencer par regarder un petit film qui présente la mission IAM. Alors, on vous a déjà fait un petit peu voyager ce matin, principalement en Afrique. On vous a fait découvrir un petit peu de l'histoire de Dieu, de choses qui se passent dans ce continent africain. Mais bien sûr que l'histoire de Dieu est beaucoup plus grande que ça. Là, on s'est limité à un endroit et une année ou une tranche d'année. Mais l'histoire de Dieu, c'est beaucoup plus grand que ça. C'est une histoire avec un H majuscule. Et ce matin, on avait envie de vous lancer le défi de trouver votre place dans l'histoire de Dieu. Où est ma place dans l'histoire de Dieu? Alors, pour bien trouver notre place, ce qui est important aussi, c'est de connaître l'histoire de Dieu. Quelle est cette histoire? Quand est-ce qu'elle a commencé? Quand est-ce qu'elle finira? Alors, ce matin, je vous invite à faire un petit survol, bien sûr rapide, de cette histoire passionnante. Dieu est éternel, je suis sûr que vous le savez, et son histoire aussi. Et la Bible débute avec ces mots, « Au commencement, Dieu ». Au commencement, Dieu créa, il créa l'univers, il créa la terre et tout ce qu'elle contient. Et il créa aussi l'homme et la femme à son image. Et tout ce qu'il a créé était parfait. L'homme et la femme vivaient en parfaite harmonie avec Dieu, en communication directe avec lui. Jusqu'à ce que l'homme et la femme commettent l'irréparable et désobéissent à Dieu et se privent ainsi de cette relation privilégiée qu'ils avaient avec Dieu. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on peut découvrir la révélation biblique, la mission de sauvetage, la mission rédemptrice de Dieu. Et en fait, tout le message de la Bible consiste à nous dévoiler ce plan incroyable que Dieu a pour racheter l'humanité, pour rétablir cette relation privilégiée qu'il y avait au départ. La Bible, c'est l'histoire de la mission de Dieu. C'est la révélation d'un Dieu missionnaire. On pense souvent à tort que la mission telle qu'on la connaît aujourd'hui commence dans le Nouveau Testament. Mais en fait, la mission, elle a commencé bien avant. La révélation de cette mission commence au chapitre 12 de la Genèse, même si elle est très brièvement exposée au chapitre 3. Et elle commence avec une alliance conclue entre Dieu et un homme nommé Abraham, qui à l'époque vivait en Ur, en Chaldée, qui est l'Irak actuel. Je vous lis les trois premiers versets de ce chapitre 12 de la Genèse. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai celui qui te maudira. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Le Seigneur fait une alliance avec Abraham. Et par cette alliance, l'intérêt de Dieu ne se limite pas à un homme ou à un peuple, mais bien à créer une nation en vue d'une mission mondiale, communiquer le message du salut à toutes les nations, à tous les peuples. Et une grande partie de l'Ancien Testament, c'est le récit de l'histoire de la naissance du peuple hébreu, de ses choix, de ses engagements, de son obéissance, de sa désobéissance et des conséquences de ses actes. Israël n'est pas seulement un peuple élu et choisi par Dieu. Israël, c'est le peuple qui a été choisi par Dieu pour être une bénédiction pour tous les autres peuples de la terre. Bien qu'Israël n'ait pas vraiment réussi à respecter les engagements de l'Alliance, Dieu, lui, a été fidèle et il a utilisé ce peuple pour bénir certaines nations malgré sa désobéissance. Et on trouve cela dans beaucoup de récits de l'Ancien Testament, comme par exemple avec Jonas, Esther, Daniel, Joseph, la servante de Naaman, etc. Beaucoup d'histoires en parlent. Mais tous ces récits de l'Ancien Testament, ils se prolongent dans le Nouveau Testament par les paroles de Jésus-Christ lui-même, quand il dit aux apôtres, on l'a cité tout à l'heure, « Faites des disciples de toutes les nations » dans Matthieu 28. Et c'est là la grande mission de l'Église, le grand mandat. Si on est là aujourd'hui, toi et moi, c'est parce que nous avons hérité des bénédictions de l'Alliance d'Abraham, comme Paul nous l'explique dans Galates 3, 29, où il dit « Et si vous êtes à Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse » que nous venons de lire. Donc si tu t'identifies à Christ par une foi personnelle, si Christ est ton Sauveur et ton Seigneur, à travers qui tu as restauré ta communion avec Dieu, alors tu es un descendant d'Abraham et héritier selon l'Alliance. Tu es, nous sommes alors des chrétiens de cette Alliance, des hommes et des femmes bénis et source de bénédiction. Et c'est là le défi que nous avons à relever. Ne pas garder ces bénédictions pour nous, pour soi, mais de les propager pour le reste du monde. Être des chrétiens qui ont le cœur de Dieu pour tous les peuples du monde. Et Dieu n'attend pas des hommes exceptionnels pour faire cela. On n'a pas un Dieu ordinaire qui utilise des hommes exceptionnels, mais on a bien un Dieu exceptionnel qui utilise des hommes ordinaires. Donc concrètement, Dieu t'appelle à vivre l'amour de Christ et à proclamer le message de la bonne nouvelle, premièrement là où tu es, mais aussi là où Dieu te conduira. Alors aujourd'hui, en 2016, où elle en est cette grande mission, ce grand commandement que Jésus nous a donné? Alors laissez-moi vous donner quelques grandes lignes de l'histoire de la mission qui a fait des pas géants ces deux derniers siècles, dû spécialement à l'engagement des protestants. Alors la première phase, elle commence avec un homme qui s'appelait William Carey, qui à moins de 30 ans, à la fin du XVIIIe siècle, a été un peu l'initiateur des sociétés missionnaires. Par sa vision, il a amené l'Église protestante en Europe et en Amérique à se réveiller pour prendre des responsabilités dans l'évangélisation du monde. Ensuite, s'est suivie une deuxième phase, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, avec toute une série de missions axées vers l'intérieur des terres. Par exemple, la mission de Hudson Taylor à l'intérieur de la Chine, ou notre mission IEM qui est allée à l'intérieur de l'Afrique. Et aujourd'hui, nous sommes dans une troisième phase, qui a commencé dans les années 80, et qui est initiée par la réflexion d'un homme qui s'appelait Townsend et d'un autre Francisco Diaz, qui ont réalisé qu'il y avait toujours des peuples qui étaient non atteints, des peuples où l'Évangile n'a pas été proclamé ou n'est pas encore, où il n'y a pas assez de chrétiens pour parler d'un peuple atteint. Et c'est Townsend qui fonda par exemple la société Wycliffe ou SEAL, qui essaye de traduire les Écritures dans toutes les langues parlées sur la terre. Donc pour nous résumer, on a une première phase qui est partie sur les côtes de l'Afrique et de l'Asie et de l'Amérique du Sud. Ensuite, une deuxième phase, on a essayé de pénétrer à l'intérieur de ces côtes, qui étaient des terrains très inconnus et très, très apeurants. Et puis finalement, on est dans cette troisième phase où il n'y a plus vraiment de lieu géographique, mais on essaye d'aller vers tous ces peuples, là où ils se trouvent, qui n'ont jamais entendu parler de l'Évangile. Si je pouvais vous offrir ou t'offrir un billet pour un spectacle unique, mais c'est toi qui choisis le spectacle. Alors peut-être que certains voudront aller voir l'orchestra de Gico, d'autres iront voir un match de foot juste à côté là, ou peut-être dans un club plus important. Ce sera peut-être votre artiste de rêve, je sais pas. Je vous laisse choisir quel serait votre spectacle rêvé ou préféré. Notre mission a réfléchi ces dernières années à quand est-ce que notre travail sera fini, quand est-ce que les missions pourront arrêter de travailler, quand est-ce que le grand mandat ou la grande mission sera accomplie. Alors, est-ce qu'on trouve des indices pour connaître cela? Alors, je vous propose deux passages qui peuvent nous aider à définir quand est-ce que la mission sera finie, si elle sera finie un jour. Le premier, c'est dans Matthieu 24, 14. Matthieu 24, 14, où il est dit « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors, viendra la fin. Et puis un deuxième verset dans l'Apocalypse, une vision de Jean au verset 9 du chapitre 7. Après cela, je regardais et voici une grande foule que nul ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et des palmes à la main. Alors moi, c'est le spectacle que j'aimerais aller voir. Je pense qu'on devrait tous rêver ou soupirer à être présent à ce spectacle. J'espère que vous en ferez partie. Mais voilà, ce spectacle, il n'est pas pour demain. On n'est pas encore arrivé à la fin, à ce moment où la parole sera entendue parmi toutes les nations. Mais alors, on en est où? Est-ce qu'on est proche de cette annonce, de cette grande mission? Alors, on peut regarder un petit peu la situation actuelle. Il y a différentes organisations qui essayent d'évaluer la propagation de l'Évangile dans le monde. Donc, on compte un peu plus de 7 milliards d'habitants, un peu plus de 16 000 peuples. Et parmi ces peuples, il y en a plus de 6 000 qui sont non atteints. C'est-à-dire, soit on n'a jamais eu l'idée d'aller leur annoncer l'Évangile, soit il y a un effort qui est fait, mais il n'est pas encore accompli, et le peuple n'est pas encore capable de annoncer l'Évangile lui-même dans sa culture. Donc on voit qu'il y a à peu près encore 40% de la population qui n'a jamais entendu parler de l'Évangile. Donc l'Église a encore du travail. L'Église de Christ doit se mobiliser pour atteindre tous ces peuples. Mais aujourd'hui, la situation, elle change. Le contexte change énormément comparé à ce qu'on a vu dans l'histoire de ces deux derniers siècles. La mission transculturelle aujourd'hui prend un visage complètement différent. Et j'aimerais vous présenter trois tendances qui ont influencé ces dernières années ou qui vont influencer la façon dont on s'engage dans la mission. Alors la mission évangélique protestante existe depuis deux siècles à peu près, un peu plus. Et il y a eu un grand bouleversement dans la présence des chrétiens dans le monde. Donc si on regarde au début du XXe siècle, on avait principalement des chrétiens dans le nord du monde, qui représentent l'Europe, l'Amérique et l'Australie. Les chrétiens étaient plus nombreux dans ces régions-là. Et puis, avec les efforts de mission, on est arrivé à renverser les chiffres, à tel point qu'on prévoit en 2021 qu'il y aura 4 chrétiens dans le sud, donc en Afrique, en Amérique latine et en Asie, pour un seul chrétien dans le nord. Un rapport qui change radicalement par rapport aux premières années. Et puis on pense même qu'en 2056, ce sera un rapport de 1 pour 5. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que la force missionnaire, elle n'est plus au même endroit. Les chrétiens qui vont partir en mission seront plus nombreux au sud qu'au nord. Donc quelles sont les conséquences pour nous qui vivons dans le nord ou dans notre façon de continuer la mission? Bien, notre rôle devient plus d'être des supporters, de se mettre au service de l'Église africaine pour les aider à partir en mission. Par exemple, au Nigeria, il y a une organisation qui envoie 800 missionnaires, donc depuis l'Afrique, un peu partout dans le monde, et par ses propres moyens, sans aide directe de l'extérieur. Ça veut aussi dire que notre façon de faire, ce n'est peut-être plus d'évangéliser directement, mais plutôt d'accompagner ces nouveaux missionnaires, ces nouvelles églises qui s'engagent dans la mission, de leur faire profiter aussi de notre expérience et de se mettre à leur service. Une deuxième tendance, c'est la présence de l'islam. Alors c'est pas nouveau, mais voilà, l'islam est là. Et on sait pas très bien quelle va être la croissance de l'islam. Est-ce que ça va continuer à dominer? Est-ce que ça va aller sur le déclin? On ne sait pas très bien lire les événements pour savoir ce qui va se passer. Mais une chose est sûre, c'est qu'on est en présence de l'islam aujourd'hui. On définit, dans les termes missiologiques, une fenêtre qu'on appelle la fenêtre des 10-40. C'est entre le 10e et le 40e parallèle, et ça représente la région dans le monde qui est le moins évangélisée. Dans cette fenêtre, il y a 85% des peuples qui sont non atteints, presque 3 milliards d'individus. Pourtant, c'est une région où on investit le moins dans la mission. 1% des ressources missionnaires sont dirigées vers cette fenêtre des 10-40, le reste ailleurs dans le monde. Donc ça veut dire qu'il nous faut aussi rééquilibrer un petit peu nos forces, rééquilibrer nos centres d'intérêt pour que la mission puisse aussi s'investir dans cette fenêtre des 10-40 qui est une région très difficile à atteindre. C'est pas pour rien que c'est l'endroit où il y a encore le moins de chrétiens. Il faut aussi réfléchir à la façon dont on va dans ces pays, parce que vous savez bien que dans un pays musulman, on ne peut pas venir construire des églises. Il faut réfléchir à une nouvelle forme peut-être d'église, de communauté, comment est-ce qu'on peut se réunir. Certainement pas comme on le fait ce matin. Une troisième tendance, c'est la glocalisation. Alors, il n'y a pas de faute de frappe. C'est une concaténation de deux mots, la globalisation avec la localisation. Donc, la glocalisation, c'est ce qui est glocal, global et local à la fois. On pense global et on agit localement. Un exemple, c'est la pièce de l'euro qui représente ça, parce que d'un côté, on a un logo pour l'Europe, et de l'autre côté, on a un logo du pays qui a frappé la pièce. Alors, qu'est-ce que ça change, cette glocalisation pour nous? Alors déjà, la communication est maintenant globale. On peut aller partout, on peut téléphoner pratiquement partout. Je crois qu'il y a peut-être encore 5% des gens sur Terre qui n'ont pas accès à un téléphone mobile, hein, ou une communication mobile. Cette communication, ça veut aussi dire qu'on a accès maintenant aux réseaux sociaux, presque partout dans le monde. En 2011, on avait 43 millions d'Arabes, de musulmans, qui avaient accès à Facebook, qui étaient enregistrés sur Facebook. 3 ans plus tard, on en a à 83 millions. Donc aujourd'hui, on doit être dans les 100 millions facilement. Mais ça montre qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent se connecter aux réseaux sociaux. Donc qui ont accès, au fait, à tout ce qu'on veut bien leur présenter à l'Ouest. Donc ça peut être de l'information biblique. On a tous la Bible à portée de main maintenant avec nos téléphones. Je sais qu'il y a quelques irréductibles qui n'ont pas de smartphone, mais pour la plupart d'entre vous, vous pouvez avoir une Bible sur votre téléphone et accéder à des références bibliques, à des textes bibliques. Et là, je vous présente juste 2 sites qui répertorient tous ceux qui accèdent à leur site. Donc chaque fois que vous avez un petit truc qui clignote, là, c'est quelqu'un qui lit un verset de la Bible, ou à droite, il y en a qui prennent des décisions pour Christ, et il y en a même qui sont discipulés à travers l'Internet. À droite, en fin de journée, on arrive à pratiquement 1 million de connexions de gens qui ont consulté un extrait de la Bible. Et puis, on a aussi un grand déplacement des gens maintenant. Ça devient facile d'aller un peu partout. Et ça devient aussi facile pour les gens du Sud de venir au Nord. Et donc, on a des communautés de ces gens du Sud qui étaient parfois difficiles à atteindre, ou de peuples musulmans qui sont difficiles à atteindre dans leur pays, qui viennent chez nous et vers qui on peut s'approcher plus facilement. Alors pour nous, ça veut dire qu'il ne faut pas rater cette marche technologique et puis utiliser ces outils qui se mettent à notre disposition pour améliorer ou pour changer un peu nos façons de partir en mission et de faire la mission. Ça veut aussi dire équiper les églises à utiliser ces outils. Maintenant, on peut être missionnaire au loin, tout en restant dans sa ville, chez soi. Et puis, on a l'étranger qui est à notre porte. Comment est-ce qu'on peut aller vers ces communautés qui sont juste en dehors de chez nous, qui vivent souvent entre elles, et qui sont des missionnaires potentiels pour repartir dans leur pays, dans leur tribu, parler de l'Évangile. On a un outil avec IEM, qui a été conçu par IEM, pour pouvoir aller dans ces endroits difficiles, ces endroits où parfois on n'irait pas tout seul essayer de faire de la mission ou d'annoncer l'Évangile. On a mis en place un outil qui s'appelle Timo, qui est une formation pour des nouveaux missionnaires en mission transculturelle. Et ça permet d'aller à des endroits où on n'irait pas simplement, et ça permet de donner une structure et une équipe qui part en mission. Alors pour vous présenter ce programme, on a un petit film qui dure 3 minutes, qui va vous montrer un petit peu comment on peut utiliser cet outil pour la mission. Ah, ça c'était autre chose. Ça c'est le nombre total de visites depuis que le site existe, le site de tout à l'heure. On est à 1,5 milliard de connexions sur la Bible. C'est des chiffres assez impressionnants. C'est un excellent programme pour démarrer la mission, de faire une Timo. Pendant 2 ans, on est vraiment encadré et encouragé à apprendre la mission, à vivre la mission. Vous pensez peut-être que c'est réservé aux jeunes, mais pas seulement. On a un couple de retraités qui a pris la direction d'une Timo au début de l'année, au Sud-Soudan, donc dans des conditions assez difficiles, niveau de vie assez bas, mais des gens remarquables. Et voilà, il y a de la place pour tout le monde. C'est vraiment une expérience très forte. On voit des résultats, on voit des choses assez extraordinaires se passer. En 2 minutes, vous parlez juste d'une Timo qui se fait parmi les bergers du Lesotho, donc un pays enclavé dans l'Afrique du Sud. Et c'était les bergers du Lesotho sont des gens mis à part qui s'occupent des troupeaux dans les montagnes. Donc ils vivent dans des conditions absolument dingues. Ils vivent dans des petites huttes en pierre. Il fait froid, il y a de la neige. Ils se lavent pas. Ils mangent de la purée de maïs tous les jours, matin, midi et soir. De temps en temps, ils tuent un animal. Ils le mangent jusqu'à ce qu'il ait fini. Donc les premiers jours, ça va, mais après, c'est un petit peu rance. Et donc, on a une équipe qui est allée vivre parmi eux pendant 2 ans. Alors, bien sûr, je crois qu'ils étaient principalement américains. Ça fait un grand changement dans leurs habitudes de vie. Alors, ils n'allaient pas vivre tous les jours là-bas. Ils partaient 3 semaines. 3 semaines, ils allaient vivre parmi ces bergers, dans les mêmes conditions, avec juste une couverture sur eux, et puis des bottes, et puis ils vivaient là-haut. Ils partageaient avec ces bergers, ils apprenaient à les connaître, ils apprenaient leur langue. Et puis après, ils redescendaient une semaine, ils reprenaient des forces dans un confort un peu plus élevé, et puis ils repartaient. Ils ont fait ça pendant 2 ans. Et ça a porté du fruit, puisqu'il y a eu 2-3 conversions tout récemment de bergers de là-haut. Alors voilà, on a fait un petit survol, bref survol de l'histoire de Dieu et de la situation de l'Église aujourd'hui par rapport au but de la grande mission. Alors je ne sais pas si cela te donne une idée de où pourrait être ta place dans l'histoire de Dieu. C'est sûr qu'on n'a pas vu tous les aspects de l'histoire, mais j'espère que ça vous a donné envie de regarder un petit peu plus loin. Parce qu'on a chacun un rôle à jouer dans cette histoire. Il y a ceux qui partent dans une autre culture pour annoncer l'Évangile, mais il y a aussi et surtout ceux qui restent et qui soutiennent ceux qui partent. Il y a ceux qui sont envoyés et il y a ceux qui envoient. John Piper, je pense que vous le connaissez, prédicateur américain, a écrit dans un de ses livres qu'il y a 3 sortes de chrétiens. Il y a ceux qui partent, il y a ceux qui restent, qui envoient, et puis il y a ceux qui désobéissent. Je vous laisse choisir votre camp. Romains 10, 14, 15 nous dit ceci. « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru ? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Et comment entendront-ils parler de lui sans prédicateur ? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés ? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. » On a ici un travail d'équipe qui se fait au sein de l'Église locale. L'Église locale a un rôle primordial et déterminant dans l'accomplissement de la grande mission, du grand mandat. Les Actes des apôtres nous relatent plusieurs exemples où l'Église envoie des missionnaires, comme Paul et Barnabas, par exemple, pour ne citer qu'eux. Le grand mandat a été donné aux disciples, qui étaient alors les prémices de l'Église naissante. Et c'est évident qu'à eux 12, ils n'allaient pas accomplir ce grand mandat, et qu'ils nécessitaient plus que ces 12 hommes pour aboutir. Donc l'Église est la composante obligatoire de la mission. Elle participe par la prière, par le soutien matériel, par le soutien moral de ceux qu'elle envoie. La grande mission, c'est un mandat périlleux. C'est une mission périlleuse. C'est un combat contre des forces puissantes. Elle a besoin de l'unité de l'Église pour arriver à l'accomplir. Et chacun peut trouver sa place dans l'histoire de Dieu. Mais surtout, chacun doit être à sa place dans le grand mandat, car c'est Dieu qui nous le demande. Qu'est-ce que tu fais pour participer au grand mandat? Que fait ton Église pour participer à ce grand mandat? Je suis sûr que certains d'entre vous sont engagés d'une façon ou d'une autre, et c'est encourageant pour les autres de voir qu'il y a des possibilités. Mais il y en a encore bien d'autres. Il existe beaucoup de possibilités pour s'engager. Et les agences missionnaires, telles que celles que nous représentons, sont là pour vous proposer plein d'opportunités pour vous engager. Il y a des voyages découvertes. On part quelques jours, quelques semaines, pour découvrir la mission, découvrir une autre culture. Il y a des missions un peu plus longues. Il y a des outils pour aller à la rencontre d'autres tribus, d'autres peuples. Et puis, bien sûr, il y a des possibilités de partir à long terme, de s'engager pour une bonne période de sa vie à aller servir dans d'autres pays, d'autres cultures. Une chose est sûre, c'est qu'il n'y a pas d'excuse pour dire « je ne sais pas où je peux servir, je ne sais pas comment je peux participer au mandat, au grand mandat de Dieu ». On a vu que depuis la Genèse jusqu'à aujourd'hui, Dieu a parfaitement accompli son plan pour que des hommes de toute nation, de toute tribu soient sauvés. Il l'a fait avec des hommes et des femmes ordinaires, imparfaits, mais passionnés par le désir de vivre et de proclamer l'amour de Christ. Est-ce que tu as une passion pour Dieu? Est-ce que tu réalises l'extraordinaire héritage que tu as reçu? Tu verras, quand tu mets un pied dans la mission, ta vie spirituelle, ta relation avec Dieu et ta vision du monde changent radicalement. Et je te souhaite de vivre cela en trouvant et en prenant ta place dans l'histoire de Dieu. C'est certainement un acte d'obéissance que Dieu te demande, mais c'est surtout et avant tout un immense privilège que d'être au service du Dieu puissant et vivant dans sa grande histoire. Alors ne t'en prive pas. Je vais prier. Seigneur, merci parce que tu nous montres que tu accomplis des choses extraordinaires dans le monde, que tu peux faire l'impossible pour que ta parole soit entendue par chacun, pour que ce concert de la fin des temps où toute nation, toute tribu sera rassemblée pour t'adorer à genoux devant le trône puisse avoir lieu. Seigneur, on te prie pour que nous soyons motivés, encouragés, que nous ayons cette soif de te servir pour que cette parole puisse vraiment aller vers tous les peuples, vers toutes les tribus, et que tu puisses nous utiliser pour accomplir cela avec nos faiblesses, avec nos faibles moyens, mais en sachant que ce sont tes projets, c'est ton plan qui se réalise et que tu es le grand maître de l'organisation de tout cela. Merci parce que tu nous donnes ce privilège de pouvoir goûter à ces projets, à ce travail extraordinaire et à avoir des vies transformées par la puissance de ta parole. Amen.